Mais vous savez que l'astronomie est la première et la plus importante des sciences. Et que sans elle, nous vivrions à l'aveugle, dans l'ignorance des merveilles de l'univers.
Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. L'existence de trous noirs supermassifs fugitifs, résultant de fusions de galaxies, est prédite depuis longtemps. Et pour la première fois, en mars 2023, le télescope spatial Hubble avait donné un indice laissant penser qu'on en avait repéré un, avec l'existence d'une sorte de longue traînée de gaz choqué. On en avait parlé ici dans nos épisodes 1469 et 1493. Et bien aujourd'hui, l'équipe à l'origine de cette observation initiale a refait d'autres observations, mais cette fois avec le télescope Webb. Et les données confirment que cet objet se déplace à une vitesse supersonique dans le milieu intergalactique, perturbant le gaz diffus et créant un arc de choc. Les chercheurs estiment que cet objet est très probablement un trou noir supermassif éjecté de sa galaxie et traversant le milieu intergalactique à grande vitesse. L'étude est parue dans The Astrophysical Journal Letters. Le candidat trou noir supermassif fugitif avait été découvert par hasard sur une image de Hubble. Sa galaxie hôte, implicite, se trouve à un redshift de 0,964. L'image révélait une étrange structure linéaire semblant provenir directement de la galaxie ou bien se diriger vers celle-ci. Une spectroscopie de suivi de cet objet a révélé que la structure pouvait correspondre à un trou noir supermassif fugitif se déplaçant à une vitesse supersonique et provoquant un choc dans le milieu circongalactique. Mais les spectres ne permettaient pas d'exclure d'autres explications, telles que la possibilité qu'il s'agisse d'une galaxie spirale sans renflement central qui serait vue exactement de profil. On en avait parlé de ces deux hypothèses ici en 2023. Et donc, c'est pour en savoir plus sur cet objet mystérieux long de 62 kiloparsecs et exclure d'autres explications que Peter Van Dokkum de Yale et ses collaborateurs ont utilisé le spectro-imageur NIRSPEC de Webb où chaque pixel de l'image contient un spectre, ce qu'on appelle également un spaxel. Et ça permet aux astrophysiciens de comparer le spectre d'un objet à différents emplacements physiques. En raison de l'effet Doppler, la lumière sera décalée vers des longueurs d'onde plus courtes, donc vers le bleu, si la source se déplace vers nous, et vers des longueurs d'onde plus longues, donc vers le rouge, si la source s'éloigne de nous. Plus la source se déplace rapidement, plus le décalage de longueur d'onde est important. À l'extrémité de la structure, les chercheurs constatent que la vitesse du gaz varie de plus de 600 km par seconde sur seulement une distance de 1 kiloparsec. Un gradient de vitesse aussi prononcé à l'extrémité de cette structure linéaire est le signe caractéristique de ce qu'on appelle un arc de choc supersonique. Aucun autre effet ne pourrait provoquer un changement aussi radical de la vitesse du gaz à une échelle aussi petite, à l'échelle astronomique bien sûr. L'interprétation en termes d'ondes de choc est confortée par la morphologie du gaz à l'extrémité du sillage, et aussi par l'analyse des rapports d'intensité des raies, par exemple O3 sur Hα, N2 sur Hα, S2 sur Hα et S3 sur S2. S1, c'est le soufre. Ces rapports sont compatibles avec des chocs radiatifs rapides et un refroidissement rapide aussi, les vitesses de choc optimales étant en accord avec les prédictions basé sur la vitesse d'un trou noir et la géométrie du choc. En modélisant soigneusement la cinématique attendue d'un arc de choc, les auteurs prédisent comment la vitesse devrait varier dans différents spaxels. Le choc ne se déplace pas parfaitement parallèlement au plan du ciel. Hein. Il est plutôt incliné vers nous d'environ 30 degrés. 29 degrés, très exactement. Par conséquent, un côté de l'arc de choc se déplace vers nous, ce qu'on appelle le limbe proche, et l'autre s'éloigne de nous, le limbe lointain. L'angle du choc signifie que l'on devrait observer beaucoup d'émissions décalées vers le bleu provenant du limbe proche et un peu d'émissions décalées vers le rouge provenant du limbe lointain. Les auteurs simulent le choc et tentent de faire correspondre la cinématique observée à leur modèle. Ils calculent la luminosité de deux raies d'émission dans chaque spaxel afin de déterminer où elle se trouve le long du choc et du sillage. Puis, il calcule la vitesse prévue à différentes distances le long du choc et de l'onde. L'augmentation brutale des vitesses négatives, donc décalées vers le bleu, vers des vitesses positives, donc décalées vers le rouge, indique si on se trouve sur le limbe proche ou bien sur le limbe éloigné. Et la pointe du choc montre à quel point leur modèle correspond bien aux données. Alors, lorsque le trou noir traverse le milieu circongalactique, il laisse derrière lui un mince sillage de gaz chaud. Au fil du temps, davantage de gaz provenant du milieu se mélange au sillage, ce qui en fait une structure durable. Et progressivement, le gaz se refroidit et devient suffisamment dense pour former des étoiles dans ce sillage. Donc, en mesurant la quantité de lumière qui est émise par ce sillage, Van Dokkum et ses collaborateurs estiment que celui-ci contient l'équivalent de 200 millions de masses solaires en étoiles. Et oui, c'est presque autant qu'une galaxie. Hein. Or, ce chiffre, hein, il est proche de la quantité de gaz total qui pourrait se mélanger au sillage au cours de sa durée de vie. Alors, ça suggère peut-être, selon les auteurs, que les conditions dans le sillage sont telles qu'il se formerait davantage d'étoiles de masse élevée que ce qui est normalement attendu. Oui, parce que les étoiles de masse plus élevées émettent beaucoup plus de lumière par unité de masse, ce qui signifie qu'une masse totale d'étoiles plus faible pourrait produire la même quantité de lumière si la population stellaire comporte de nombreuses étoiles de masse élevée. Alors les auteurs font une estimation simple de la masse du trou noir supermassif en utilisant la conservation de l'énergie. Lorsque le trou noir traverse le milieu, il chauffe le gaz, transférant ainsi une partie de son énergie cinétique. En mesurant l'énergie transférée au milieu dans l'arc de choc et le sillage, les auteurs fixent une limite inférieure pour la masse du trou noir, équivaut donc 10 millions de masses solaires, minimum. Or, il se trouve que cette masse est similaire à celle qu'on pourrait attendre compte tenu de la masse des étoiles qui sont situées dans le renflement de la galaxie haute. Quant à sa vitesse de fuite, elle est mesurée avec une bonne précision aussi, et elle vaut la bagatelle de 954 km par seconde, avec une précision d'environ plus ou moins 120. Avec donc un angle d'inclinaison de 29 degrés. Alors il faut se rappeler qu'il existe deux façons principales pour un trou noir supermassif d'être éjecté de sa galaxie hôte. Premièrement, le recul induit par les ondes gravitationnelles lors d'une fusion binaire. Et deuxièmement, des interactions à trois corps. Alors lorsque deux trous noirs de masse similaire et de rotation opposée tournent l'un vers l'autre, ils émettent plus d'ondes gravitationnelles dans une direction que dans l'autre. Cette asymétrie crée une force de recul dans la direction opposée, ce qui signifie qu'une fois que les trous noirs ont fusionné, le trou noir résultant peut être éjecté de la galaxie à très grande vitesse. Une telle configuration est probablement assez rare, mais presque toutes les fusions de galaxies devraient finalement aboutir à une fusion de trous noirs. Il devrait donc encore exister une population de trous noirs éjectés de leur galaxie par le recul gravitationnel, qu'on appelle aussi hein, le kick. Et puis, dans le cas d'un système à trois corps, le système dans lequel trois trous noirs orbitent les uns autour des autres peut être assez instable et aboutir à l'éjection du trou noir de plus faible masse de la galaxie. Alors ici, comme la masse estimée de 10 millions de masses solaires correspond bien à la masse stellaire du bulbe de la galaxie, Van Dokkum et ses collaborateurs concluent qu'il est peu probable que le trou noir fugitif soit celui de plus faible masse éjecté d'un système triple. Pour eux, il s'agit plus probablement du résultat d'un événement de recul suite à une fusion. Alors bien sûr, certaines questions restent en suspens concernant cet objet singulier. Il est particulièrement difficile de prouver de manière définitive qu'il y a un trou noir intégré dans cette structure. Et s'il y en a un, il est probablement entouré d'une enveloppe de gaz chaud beaucoup plus grande que le trou noir, ce qui rend son observation directe impossible. Mais pour Van Dokkum et ses collaborateurs, les observations correspondent très bien à ce que l'on attendrait d'un trou noir supermassif en fuite, ce qui en fait la preuve la plus concrète à ce jour de l'existence d'un tel trou noir supermassif fugitif. Et il ne fait heureusement aucun doute maintenant que d'autres données seront recueillies sur cet objet étonnant, ce qui permettra d'en savoir encore beaucoup plus. L'article de Peter Van Dokkum et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 998, et il s'intitule « Confirmation d'un trou noir supermassif fugitif via son choc supersonique ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, allez, salut !